Alors, très content d'être avec vous ce matin pour poursuivre cette série de messages sur la fin des temps. La fin des temps et moi, et vraiment content d'ajouter ma voix à cette série. On est là-dedans depuis à peu près un mois maintenant. Et vraiment, c'est une série. Je vais me faire un peu de ménage, sinon ça va mal finir. C'est une série. On est encouragé encore la semaine dernière. On avait un message ici à Charlevoix. On est dans une série de cinq impératifs de la fin des temps. Et jusqu'à maintenant, on a vu « N'aie pas peur ». Premier impératif, n'aie pas peur. Ensuite, demeure dans la parole de vérité. Et ça, c'était la semaine dernière. On a vraiment eu un bon message avec Pasteur Élise. Puis encore cette semaine, dans notre groupe d'hommes, on se réunit chaque semaine. On est 5, 6 à se réunir. Et on était édifiés. On partageait là-dessus. Chaque semaine, on revient sur les messages qu'on a eus le dimanche matin. Et on était vraiment édifiés. On s'est défiés à lire davantage la Bible. Et petite parenthèse avant de commencer mon message, je t'encourage à te joindre à un groupe. Si tu n'en as pas encore, c'est vraiment bon de pouvoir être ensemble, de pouvoir s'encourager, partager. Jésus a voulu ça comme ça, qu'on soit ensemble et qu'on s'encourage. On a besoin les uns des autres. On a besoin que les autres prient pour nous et on a besoin que les autres ont besoin qu'on prie pour eux. Et c'était ça le plan de l'Église. Alors je t'encourage à le faire. Surmonte la petite coche du Zoom. Je sais que ça en effraie beaucoup. Est-ce qu'il y en a que ça effraie Zoom? Ouais, je sais. C'est pas facile, mais vous allez être bénis. C'est une petite coche à surmonter, mais vous allez être bénis, j'en suis sûr. On a des groupes ici. Puis il y a des groupes pour tous les goûts. Hein. C'est ça l'avantage de faire partie du Grand Nouvelle Vie, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les besoins. Il y en a pour les couples, il y en a pour les hommes, pour les femmes, pour les célibataires. Vraiment, il y a tout qui est disponible. On a des groupes ici à Charlevoix. Il y en a deux qui se regroupent en présentiel et il y en a deux qui sont sur Zoom. Donc, allez sur le site internet nouvellevie.com, vous pouvez vous inscrire. J'arrête ma pub ici. Donc, on est dans cette série sur la fin des temps et moi. Et aujourd'hui, l'impératif de la fin des temps qu'on veut voir ensemble, c'est l'impératif prends soin. Prends soin des gens autour de toi. Et on va regarder à trois façons, d'après la parole, de comment on peut prendre soin des gens autour de nous dans cette période des temps de la fin. Comment on peut prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Et avant d'y aller, je veux juste prier. Seigneur Jésus, on se présente devant toi. Comme on l'a chanté, tu es la lumière, tu es notre espoir, Seigneur, et on a soif de toi, on vient devant toi, Seigneur, parce qu'on a confiance en toi, parce qu'on sait que ta parole est la lumière devant nos pieds, Seigneur. On a besoin d'entendre ta voix, Seigneur, d'en apprendre davantage sur toi pour avancer. Seigneur, viens parler à nos cœurs maintenant, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. On ne veut pas juste y aller comme par habitude, Seigneur, mais on a soif de toi, on vient devant toi parce qu'on t'aime et on a soif d'avoir plus de toi, de te laisser plus de place dans nos vies, Seigneur Jésus. Amen. Alors, je dois commencer ce message en vous faisant une petite confession. Je vous avoue que j'ai toujours eu une relation un peu délicate avec l'Apocalypse et tous les textes apocalyptiques dans la Bible, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'Apocalypse, c'est compliqué. On ne se le cachera pas, c'est quand même des textes difficiles, c'est bizarre. L'Apocalypse, c'est bizarre. Je me souviens d'un moment que j'avais avec une bénévole lorsque je travaillais à la banque alimentaire ici à la Malbaie, et on échangeait sur la foi. On échangeait sur Jésus, sur la Bible. Puis c'était une madame qui avait une croyance, tu sais, puis on parlait de la Bible et tout ça. Puis elle me disait, ah, moi j'aime ça, la Bible c'est vraiment encourageant, c'est des bonnes valeurs. Mais rendu à l'Apocalypse, quand j'ai lu ça, je me suis dit, le gars qui a dû écrire ça, il devait être sur l'acide pas mal. Et moi je lui disais, je peux comprendre votre point. C'est quand même, on arrive d'un regard extérieur, on lit l'Apocalypse, puis c'est spécial. C'est un livre qui est difficile et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans l'Apocalypse, il y a plein de choses qui sont symboliques. Deuxième chose, c'est que c'est un livre qui a 2000 ans. Troisième chose, c'est que ce livre, non seulement il était destiné à des personnes qui vivaient il y a 2000 ans, mais en plus des personnes qui avaient une bonne connaissance de la Bible, de l'Ancien Testament. Et nous, on arrive, puis c'est dur pour nous de comprendre tout ça. De la même façon que c'est dur pour nous de comprendre l'Apocalypse, ce serait difficile, mettons, si aujourd'hui j'avais l'occasion de parler avec quelqu'un qui vivait il y a 2000 ans. J'arrive, puis je lui dis. Je lui annonce de façon prophétique que ce soir, il va y avoir un affrontement entre les Golden Knights et les Red Wings. Et que mardi soir, les Hurricanes affrontent le Lightning. Ça se peut qu'il me demande qu'est-ce que je fume. C'est possible qu'il ne comprenne pas tout parce qu'il lui manque des paramètres. Il lui manque des paramètres. Il n'a aucune notion d'anglais. Il n'a aucune idée qu'il y a un continent qui existe qui s'appelle l'Amérique, que là-dedans, il y a une organisation qui s'appelle la LNH. Et il n'a aucune idée c'est quoi le hockey. Il lui manque des paramètres. Il ne sait pas ce que c'est le hockey, qu'il y a des gars qui vont s'amuser à taper dans une poque avec un bâton. Le livre de l'Apocalypse et la littérature apocalyptique en général demandent un investissement pour le comprendre. Et si tu commences juste à lire ta Bible, je ne te recommande pas spécialement dans tes temps de dévotion le matin de lire l'Apocalypse, de prendre 5 minutes. Ça se peut que ce soit pas vraiment édifiant, ou ça se peut que tu penses comprendre des choses, mais en fait, tu n'auras rien compris. D'accord? Et que tu peux le faire, mais je ne te le recommande pas spécialement. C'est difficile, ça demande du temps, de l'investissement. Ça demande de se pencher. Ça, c'est la première raison pourquoi j'ai de la difficulté, j'ai toujours une relation difficile avec les textes de l'Apocalypse. La deuxième raison, c'est à cause de Philippulus. Deuxième raison pourquoi j'ai de la misère avec l'Apocalypse, c'est à cause de Philippulus. Ça dit rien à personne, ça, Philippulus? Philippulus, le prophète. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu un traumatisme. Philippulus, il va apparaître à l'écran. C'est un personnage de Tintin. Et ce personnage-là, il me faisait peur. En fait, c'est dans l'épisode de Tintin et l'étoile mystérieuse. Moi, je vous parle de mes souvenirs d'enfance. Tintin et l'étoile mystérieuse. L'histoire, c'est qu'il y a des scientifiques qui découvrent une comète, puis cette comète, selon leurs calculs, va s'écraser sur la Terre, puis finalement, elle passe pas loin de la Terre, mais il y a quand même des impacts. L'asphalte se met à fondre, il y a des tremblements de terre, tout ça. Et puis là, au milieu de cette scène chaotique, il y a cette espèce de gars complètement fêlé qui court dans la rue en toge, en frappant sur un gang, puis il dit « le châtiment arrive, c'est la fin du monde ». Et moi, je n'ai pas envie de ressembler à Philippulus, ça me tente pas. Ça me tente pas. Mais des fois, je crois que les chrétiens sont un peu associés à ce genre de personnages bizarres, illuminés. Parce qu'il y a certains chrétiens qui utilisent la peur pour prêcher, qui annoncent la peur. Du genre, repens-toi, sinon tu iras en enfer. Est-ce que vous avez déjà été dans une grande ville aux États-Unis, genre à New York, puis au coin des grandes avenues, il y a ces gars avec des pancartes marquées dessus, repens-toi, sinon tu vas aller en enfer. Puis j'aime pas trop être identifié à ces gens-là. Ou sinon, il y avait cette église à Montréal, sur le boulevard Papineau, pour ceux qui connaissent, boulevard très passant, qui menait au pont Jacques-Cartier. Et moi, cette église-là m'effrayait toujours. Elle m'effrayait. Déjà, le bâtiment était vraiment lugubre. C'était comme vieux, tout délabré, avec des barreaux sur toutes les fenêtres. Puis sur le devant, en gros, puis là, c'était où tout le monde passait, tout le monde qui habite sur la rive sud le soir passait devant cette église-là. Puis en gros, c'était marqué en néon, le salaire du péché, c'est la mort. Bonne nouvelle, c'est l'enfer, tu peux. Ok, c'est ça. Puis à côté, c'est ça, il y avait un autre écran lumineux qui clignotait juste 2 mots. Ton âme, ton âme. Et entre nous, c'est pas faux. La Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et entre parenthèses, petite parenthèse, dans 3 semaines, on va avoir un message avec Élise sur le ciel et l'enfer. Ok? Ça va être vraiment être intéressant. Allô, bienvenue, bon retour. Restez avec moi, restez avec moi. On va voir ce message, c'est ça, sur le ciel et l'enfer. Et dans le fond, l'idée, c'est vraiment de démystifier un peu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au ciel et à l'enfer? Parce qu'on a une vision traditionnel de qu'est-ce que c'est le paradis, et on va essayer de défaire un peu les idées préconçues qu'on a en regardant qu'est-ce que dit la Bible de ça. Donc, c'est pas faux, mais c'est pas notre message, ok? C'est pas notre message. Ce que nous prêchons, ce que nous annonçons en tant qu'Église, en tant que chrétien, ce n'est pas le châtiment. Ce qu'on annonce, nous, c'est l'espoir. On annonce Jésus, l'amour de Dieu manifesté au travers de son Fils pour que tous échappent au châtiment. Donc ce qu'on annonce, c'est la solution. Ce n'est pas le châtiment. Et la première façon ce matin de prendre soin des gens autour de nous, la première façon, c'est d'annoncer la réalité des derniers jours. Et Jésus nous parle de cette réalité-là. Voici ce qu'il dit en Matthieu 25. Lorsqu'il parle de son retour, il va dire que tous les peuples de la terre vont être rassemblés. Tous les peuples de la terre vont être rassemblés. Puis là, Jésus va revenir, c'est bien important ce passage-là, Jésus va revenir, les peuples de la terre vont être rassemblés, et il va les séparer en 2 groupes. Okay? Et d'un côté, il va faire comme un berger qui sépare les brebis et les boucs. Et si on a quelques notions, en tout cas, je vais te le dire, t'as envie d'être une brebis quand Jésus va revenir. Okay? D'un côté, à sa droite, il va mettre sa droite qui est la place d'honneur, il va mettre les brebis, et de l'autre côté, il va mettre les boucs. Et voici ce qu'il va dire aux brebis, verset 34 du chapitre 25 de Matthieu. « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Depuis la création, depuis le tout début, ce que Dieu a prévu pour ses brebis, c'est un royaume. Maintenant, regardez ce qu'il dit au bouc, verset 41. « Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche et leur dira, « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ouais, on veut faire des « ich », c'est quand même intense. Mais regardez, prêtez attention à ce texte-là. Dieu a préparé un royaume pour ses brebis, mais pour ses boucs, pour les boucs, il n'a rien préparé. Le feu éternel n'est pas préparé pour ceux qui ne le suivent pas. Le plan de Dieu pour tous les hommes, c'est la vie éternelle, rien d'autre. Allez dans le feu éternel préparé pour qui? Pour le diable et ses anges. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, la seule chose qu'il avait préparée pour lui, c'était la vie éternelle. Le message que nous avons est un message d'amour, un message de vie. Le cœur de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et si Dieu retarde sa venue, c'est pour que le plus grand nombre vienne à lui. Amen. Le seul plan que Dieu a préparé pour l'homme, c'est la vie éternelle. Moi, quand je lisais ça, je trouvais ça spécial. Ça m'a renversé de voir comment Dieu... Souvent, l'image qu'on a de l'enfer, c'est il y a le châtiment divin. Et oui, il y a l'enfer. Mais ce que Dieu a préparé pour nous, c'est un royaume. Il n'avait pas d'autre plan pour nous. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que l'enfer n'existe pas, que tout le monde va au paradis. Okay? Il y aura un jugement, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est bon. Dieu ne va pas imposer sa présence pour l'éternité à quelqu'un qui ne la veut pas pendant toute sa vie. Dieu est bon, il respecte nos choix. Quelqu'un qui ne veut rien entendre de Dieu, de Jésus, de l'Église toute sa vie, si aujourd'hui tu lui dis qu'il va passer l'éternité avec quelqu'un qu'il n'aime pas, je ne suis pas sûr que ça fera son affaire. Et l'autre jour, j'étais dans ma voiture et j'écoutais une chanson d'un artiste qui s'appelle Zagata. Si tu vas appeler ton enfant comme ça, sois béni. Et c'était une chanson que j'entendais pour la première fois, puis c'est un artiste qui commence à être populaire un peu, c'est de la bonne pop, et la chanson était bonne, j'aimais bien ça grouvait bien. Puis là j'arrive au refrain, puis il y a quelques paroles qui m'ont accroché un petit peu. Et voici ce que ça disait, le refrain. « Dis-moi pourquoi c'est pas permis de porter le nom de ton choix, de colorier tes doigts si t'en as envie, on s'en fout, le monde est rendu là. No more drama, on est amis, même si on est différents. On fêtera tous ensemble au paradis, c'est comme ça, on est rendu là. » Mais la réalité des derniers jours, c'est que, ben non, on n'ira pas tous fêter ensemble au paradis. Et je ne dis pas ça avec mépris ou comme non, tout bad. Je dis ça avec tristesse, parce que ça, c'est un mensonge. Souvent, ce genre de discours se donne l'apparence de courage en disant qu'ils défendent les droits de certaines minorités. Mais... ce discours-là est facile à dire. C'est même marketing, ça rapporte de l'argent. Mais de dénoncer ce mensonge-là demande bien plus de courage. Parce que c'est ce que tout le monde veut entendre, ça, qu'on fêtera tous ensemble au paradis. Et c'est triste parce que beaucoup de gens croient ça. Beaucoup de gens croient que peu importe ce que tu fais, on ira tous ensemble au paradis. Et nous sommes appelés à annoncer la réalité des derniers jours, et c'est ça aussi la réalité. C'est que on va devoir rendre compte de nos actes. Moi, je veux prendre soin de ces gens. Je veux prendre soin de ces gens qui se font bombarder de mensonges et qui sont dans l'ignorance. Chacun va devoir rendre compte de ses actes. Cette semaine, on écoutait une émission avec Élise, ça s'appelle Le Prochain Stand-Up, une émission d'humoriste, un concours d'humoriste, je ne sais pas si vous connaissez ça. Puis, on aime ça, cette émission, mais là, cette semaine, on arrivait le dernier candidat. En dehors de la personne et de ses choix, son numéro était bon, il était doué. Mais là, arrive un moment, il commence à parler de Jésus. À parler de Jésus, mais tu sais, on n'est pas choqué là. On voit ça partout là. Là, c'était sale. Il parlait de Jésus sur la croix, à moitié nu, puis il en parlait de façon sexuelle, tout ça. Puis, regarde, j'ai de la compassion pour toi, mais jusqu'à un certain point, là, on ne sera pas amis. Ou bien ça va être une amitié difficile. Si tu insultes ma femme, ça va être difficile entre nous, là. Mais moi, Jésus, je l'aime. C'est mon sauveur. Puis, il y a plein de gens qui, avec arrogance, rient de Dieu, rient de Jésus. Et tu vas devoir rendre compte de ces actes. Et nous, nous sommes appelés à confronter ces mensonges-là. Donc on n'annonce pas le châtiment, on annonce l'amour, le plan de Dieu qui est bon, bien plus bon, bien plus bon, bien meilleur que nous. Bien meilleur que nous. Il est patient, il veut que tous soient sauvés. Mais aussi on doit confronter ce qui est dit. Même si c'est pas populaire par en tout de dire que regarde, on n'est pas tous amis, même si on est différents. Et on ne fêtera pas tous ensemble au paradis. Mais il y a un moment où tout le monde va devoir rendre compte de ses actes. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour personne, ce feu éternel. Son plan, c'est la vie, c'est la justice. Ce que nous annonçons, c'est un espoir aussi qui ne décevra pas. Ce n'est pas comme le passage de 2020 à 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont écouté le bye-bye. Hein, tout le monde était comme, yes, on passe 2020, c'était de la merde, on passe à 2021. Puis finalement, il ne s'est rien passé. L'espoir que nous annonçons, c'est un espoir qui ne décevra pas, qui est certain. Et par moments, on a vraiment hâte. Par moments, on a vraiment hâte que Jésus revienne. Ça t'est déjà arrivé, j'imagine, hein, de regarder autour de toi, puis de voir toutes les valeurs, tout ce qui se passe autour de nous, puis de dire, mon Dieu, j'ai-tu hâte que Jésus revienne. Oui, on a hâte, mais ce matin, je veux te regarder à ce que toi et moi, on peut faire en attendant. La première chose, c'est d'annoncer la réalité des derniers jours. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'anticiper le retour de Jésus. Et on va regarder un texte dans 2 Pierre 3, versets 11 à 13. Quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. En attendant le retour de Jésus, on n'est pas appelé à vivre dans une bulle spirituelle en se faisant du bien, en se lamentant à propos de ce qui se passe autour de nous, à propos de où s'en va le monde, à dire « Mon Dieu, c'est débauché et nous, on est purs. » On est appelé à anticiper le retour de Jésus, à hâter son retour, comme le dit l'apôtre Pierre. À hâter le retour de Jésus. Puis on parle des temps de la fin et peut-être que chez toi, ça crée un certain malaise, un certain sentiment de panique. Mais laisse-moi te dire que les temps de la fin, là, ça fait un bout de temps qu'ils ont commencé. Lorsque Jésus est venu sur terre, c'était le début des temps de la fin. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a inauguré ce royaume qui nous est préparé depuis le début de la création. Nous croyons que maintenant nous sommes. Comme le disait Pasteur Claude dans son message d'introduction, on est dans la fin des temps de la fin. Mais dans cette période, il y a comme une tension. Jésus a inauguré le royaume, mais on n'est pas encore pleinement dans le royaume. Il y a comme une tension entre le maintenant, on peut vivre des choses, mais le pas encore. Il y a des choses qui prennent place, mais ces choses-là ne sont pas encore à leur plein aboutissement. Quelques exemples. En Jésus, maintenant, lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es libéré de la puissance du péché. Mais tu n'es pas encore libéré de la présence du péché. N'y a plus de condamnation pour tous ceux qui vivaient en Jésus. On est libéré de la puissance de Jésus. Mais le péché, on peut le dire, il est encore autour de nous. Puis parfois, c'est ça. Pas juste autour de nous. En lui, maintenant, nous sommes remplis de sa gloire. Tu as accepté Jésus dans ta vie, dans ton cœur, tu es rempli de sa gloire. Mais on n'est pas pleinement transformé à sa gloire. Ouais, à part Élise, elle est pleinement transformée à sa gloire. Par la croix, maintenant, on a accès à sa présence. Le voile est déchiré, le voile du péché qui nous séparait, on a accès à la présence de Jésus, mais on n'est pas pleinement dans sa présence. Il y a vraiment cette tension. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à hâter la venue de Jésus. Et ce que ça signifie, ça veut dire tendre toujours plus vers ces réalités-là. Chercher sa présence davantage. Oui, on a expérimenté la présence, mais un jour, on va être pleinement et on veut tendre toujours plus à être dans la présence de Dieu. Non seulement pour nous, Mais pas juste pour nous, pour les gens autour de nous. On est des ambassadeurs du royaume de Dieu. On recherche la présence de Dieu, pas juste pour se faire du bien, mais pour être ces ambassadeurs-là. On veut s'éloigner de plus en plus du péché. On veut chercher toujours davantage à être transformé à sa gloire. Quand on a acheté notre maison, on l'a acheté au mois de janvier. On a payé, mois de janvier, hein, c'était ça. On l'a payé la maison. La maison était à nous, on était propriétaire. Mais on a déménagé seulement au mois de juillet. Mais pendant toute cette période, on était propriétaire déjà. Puis je me souviens qu'on a commencé, mais on ne pouvait pas habiter dedans. Mais on faisait quand même des choses. On tendait à comme si on était déjà là. On était déjà propriétaire. C'était à venir. Mais je me souviens qu'avec André, on allait déraciner déjà des arbres pour préparer le champ qui allait être fait. Moi, j'ai réparé la vieille remorque. Nous devons tendre aux réalités du royaume à venir. Et lorsque nous répondons à ce rôle-là d'ambassadeur, ce qui se passe, c'est qu'on répond aux besoins du monde autour de nous. Parce que le royaume, voici comment Pierre le décrit. C'est un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Lorsque Jésus reviendra là, il ne sera pas à la porte, de même, format Pierrick, dormant. Puis il ne va pas te poser des questions du genre sur tes connaissances eschatologiques, là, sur comment tu connais, c'était quoi ta bonne théorie de la fin des temps. Il ne va pas te dire, ok, c'est quoi ta théorie sur le millénium, les grandes tribulations avant ou après. Ok, c'est bon, tu peux rentrer. Il ne va pas te dire l'enlèvement, qu'est-ce que tu en penses. Non, tu sors. Voici ce que Jésus va nous demander. Voici sur quoi il va nous juger. Matthieu 25, verset 34 à 45. Donc le verset où on était rendu. Il parle à ses brebis, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Et voici sur quoi il juge. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Et plus loin, verset 40, il dit « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Nous devons tendre vers les réalités du royaume de ce royaume de justice, de cette nouvelle terre où la justice habitera. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de la justice. Et ça, on est appelé à le faire dans un monde où il y a vraiment un déséquilibre social. Il y a un déséquilibre au niveau de la répartition des richesses. Genre vraiment intense. Et c'est mon troisième point ce matin, c'est que nous devons aimer pour rétablir la justice. Et ça, c'est toute mission. Aujourd'hui, on est quelques chiffres. On est 8 milliards sur la Terre, à peu près. 8 milliards sur la Terre, mais il y a 30 personnes qui se partagent la moitié des richesses. C'est comme si nous, là, on avait la moitié des richesses. On est dans un pays où veut pas, le pauvre et l'étranger sont souvent perçus comme des profiteurs du système. On a peur de se faire un peu prendre nos richesses, de perdre de nos avantages. On est dans une société vraiment individualiste, où l'égoïsme domine, chacun agit pour soi, pour son propre avantage. Et nous, là-dedans, on est appelé à rétablir ce déséquilibre. Et c'est vraiment fou parce que cette urgence de corriger et de condamner les déséquilibres sociaux, c'est vraiment dans le cœur de la Bible, c'est dans le cœur des messages des prophètes. C'est présent dans toute la Bible. On regarde Ézéchiel 34, 21. Voici ce qu'il dit. « Vous avez bousculé du flanc et de l'épaule toutes les brebis faibles. » Ça date de 25 siècles, mais à peu près. 25 siècles, mais moi, ça me fait penser aux Boxing Days. Là. Tu sais, les scènes qu'on voit à la télé où il y a des gens qui sont comme complètement, qui perdent l'esprit. Et c'est juste, je pense à moi, je bouscule tout le monde pour avoir ma télé, ma PS5. Genre, c'est complètement fou. Vous avez bousculé du flanc et de l'épaule, toutes les brebis faibles. On pense qu'à nous. Ésaïe 3, 13 à 15. L'Éternel s'est levé, il intente un procès. Pourquoi foulez-vous aux pieds la dignité du pauvre? Et plus loin, Ésaïe 5, 8. « Malheur à vous qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre au point qu'il n'y ait plus d'espace libre parce que vous occupez à vous seul tout le pays. » Et puis, On lit des passages comme ça, puis on se dit, ouais, mais des champs et des maisons à maisons. Sais-tu qu'aujourd'hui, si tous les champs cultivés pour nourrir le bétail qui sert à la viande qu'on mange, si tous ces champs-là étaient utilisés pour cultiver de la nourriture, pour nourrir des êtres humains, il n'y aurait plus de faim dans le monde. Alors à vous qui ajoutez maison à maison, champ à champ, par gourmandise, on foule aux pieds la dignité d'autres êtres humains parce qu'on nourrit plus les bêtes que les autres êtres humains. Puis il y a une statistique que j'hésitais à dire là qui est juste troublante. Toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Puis moi, Élise est végétarienne, moi j'aime la viande là, mais par gourmandise, puis souvent nous on regarde notre société en tant que chrétien. Et on voit justement tout ce dont on parlait tout à l'heure, la débauche, la dépravation. Mais la plus grande faute de nos sociétés et des sociétés depuis toujours, c'était l'injustice. Regardez ce que Ézéchiel dit de Sodome. Sodome, on s'entend que ce qu'on connaît de Sodome, c'est la débauche, tout ça. Mais voici ce qu'il dit, Ézéchiel chapitre 6, versets 49 à 50. Voici quel était le crime de Sodome. Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses, parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru le pauvre et le malheureux. Elles sont devenues hautaines et se sont mises à commettre sous mes yeux des actes abominables. C'est pourquoi je les ai fait disparaître, comme tu l'as vu. Le crime des habitants de Sodome, avant la débauche, c'est de s'être détourné du pauvre, de celui qui était dans le besoin. C'est d'être devenu indifférent à la souffrance des opprimés et l'exemple de la chanson dont je parlais tout à l'heure, on fait des discours dans lesquels on soi-disant on défend des opprimés, mais les vrais opprimés sont ignorés. Alors nous ici, Nouvelle Vie Charlevoix, comment est-ce qu'on fait pour rétablir la justice autour de nous? Comment on fait pour aimer et rétablir la justice autour de nous? Parce que dans Charlevoix, là, ce matin, le but, c'est pas juste de mettre un poids puis de dire, OK, il n'y a pas de solution, là. Dans Charlevoix, autour de nous, il y a vraiment de la souffrance. Il y a de la pauvreté, il y a de l'abus, il y a de l'inceste. Il y a des gens qui vivent vraiment dans la souffrance. Et comment est-ce qu'on peut faire pour les rejoindre? Il y a des jeunes qui s'ennuient. Et est-ce que nous, l'Église Charlevoix, nous sommes simplement là à vivre dans, comme c'est décrit, dans une abondance, une tranquille insouciance, et parfois, une abondance spirituelle, une insouciance, alors qu'il y a des besoins. Et je ne veux pas qu'on s'assoie juste à dire qu'on ne peut rien y faire. C'est juste qu'il y a trop de choses qui se passent autour de nous, on ne sait pas quoi faire, puis juste rester là. Il y a vraiment une urgence. Il y a des gens qui meurent littéralement et spirituellement autour de nous. Et ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit avec Élise et d'autres sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant qu'Église, comment on peut répondre à ce besoin-là. Et c'est vraiment dans notre cœur que l'Église, que l'identité, l'ADN de l'Église devienne, qu'on soit une Église qui s'occupe du pauvre, qui s'occupe de ceux qui sont délaissés, que ça fasse partie de notre identité. Et alors, on va commencer là où on peut commencer. On va commencer avec un petit projet. Donc ce matin, je veux vous proposer de faire quelque chose pour les gens dans le besoin autour de nous. On a contacté la Banque alimentaire de la Malbaie, SAC, Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est. Et eux, chaque année, pour Noël, ils distribuent des paniers de Noël. Et nous, dans notre réflexion, on était comme, on ne veut pas faire de la concurrence, il y a déjà une banque alimentaire, on veut juste aider les gens autour de nous. Et pas empiéter sur le territoire de quelqu'un. Donc on les a contactés. Puis ce qui a débouché de cette discussion, c'est que la personne avec qui je parlais me disait, Il y a des choses que nous, on prend pour acquis. Des choses qui nous semblent insignifiantes, mais pour des gens qui sont dans le besoin, ça peut faire toute la différence. Alors, ce qu'on va faire, le projet qu'on va lancer, c'est qu'on va faire... ce projet s'appelle Noël Surprise. On va faire des sacs surprise pour les enfants de familles dans le besoin. Chaque famille va recevoir non seulement un panier de Noël, que la banque alimentaire distribue, mais nous, on va faire un petit sac surprise, comme on a ici, et on va le remplir juste de gâteries, juste de cochonneries. C'est bon? Et nous, on prend ça pour acquis. Moi, nous, on est des enfants dans l'âme, Élise et moi, puis on aime ça, avoir des petites gourmandises, tu sais, même à l'Halloween, on mange des bonbons et tout ça. Mais ça peut faire vraiment une différence pour un enfant. Donc, on s'est engagé, en tant qu'Église, à fournir à la banque alimentaire 130 sacs comme ça. Il y a à peu près 120-130 enfants dans les familles qui sont inscrites en général au panier de Noël. Et c'est un défi qu'on se lance, c'est un gros défi quand même, 130 sacs. Et on a ici un exemple, vous pourrez aller à la fin de la réunion aux caisses d'information et aller prendre des sacs. Vous pouvez partir avec des sacs vides, puis vous revenez avec des sacs pleins. Et prenez-en 3, 4. L'idée, c'est qu'on veut faire une différence dans la vie de ces enfants. Et non seulement vous, mais aussi amener des sacs en surplus pour vos collègues de travail, peut-être. T'sais. Les gens aiment ça donner dans le temps de Noël. Et donc, on va faire ça. Et puis, on a des exemples de qu'est-ce qu'on peut mettre. À peu près une valeur de 10$ par sac. OK? Skittles, des petits bonbons. Un petit jeu de cartes, cute, avec des petits pitous, un petit pug, et c'est du beau, les pugs. Des collants. C'est le fun, moi je déballe un petit sac surprise. J'ai beaucoup de plaisir en ce moment. on a une balle comme ça. On veut des choses, on veut pouvoir fermer le sac, puis on va simplement... Hop. Ouais, une petite balle surprise, des chocolats, quelque chose pour faire des bulles. On veut les gâter, OK? On veut les gâter, donc... Est-ce que vous embarquez dans ce projet-là? Ouais? Yes. Ça, c'est le premier volet du projet. Deuxième volet, c'est qu'on veut aussi, pas juste cocher la case Église Nouvelle Vie a fait ça, mais on veut aussi qu'ils puissent mettre des visages. Et pendant 2 semaines, à fin du mois de novembre, début décembre, la Banque Alimentaire monte les paniers de Noël et ils ont besoin de bénévoles. Et on s'est dit que ce serait le fun si à chaque plage horaire, il y aurait un représentant de l'Église. Donc, c'est juste un petit 2 heures chacun. Si vous avez du temps, pareil, à côté de là, il y aura les sacs distribués par mon ami Pierrick. Il y aura un petit tableau. Vous pouvez inscrire vos noms pour aller aider à monter ces paniers de Noël. Ça, c'est le deuxième volet de Noël Surprise. Et troisième volet, parce que là, je vous ai présenté le projet maintenant. Mais on s'entend que moi, mon but là ce matin, c'est pas de soulager la conscience de l'Église Nouvelle Vie. On ne veut pas juste cocher une case, on a fait notre bonne action, OK? Je vous encourage à prendre ça à cœur. Lorsque vous allez partir avec vos sacs, que vous allez les remplir, avant de les remettre, prenez le temps de prier pour la petite fille, le petit garçon qui va recevoir le sac. Parce que tout le monde fait des bonnes actions, là. Tout le monde autour de nous fait des bonnes actions. Mais la différence, c'est que toi, l'Esprit de Dieu habite en moi. La marque qui est sur ta vie, c'est la marque du Saint-Esprit, la marque d'amour. Et tu peux faire toute la différence. Peut faire toute la différence. Aucune organisation, aussi saine soit-elle, ne peut transformer la vie de quelqu'un. Mais Dieu peut changer une vie, faire passer des ténèbres à la lumière. Un enfant qui n'avait aucun espoir parce qu'il est entouré de détresse, de misère, Dieu peut transformer sa vie, l'amener à la lumière. Amen. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Si toi, Manon, toi, Monique, si on s'offre à lui, puis si on se met à sa disposition pour faire de grandes choses. Alors, on embarque là-dedans?
Oui.
Yes. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté envers nous. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Nous pouvons tellement témoigner de ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. C'est notre témoignage, Seigneur. Tu nous as fait passer de l'ombre à la lumière, Seigneur. Alors qu'on était indigne, Seigneur, alors qu'on méritait, Seigneur, de vivre ce châtiment loin de toi, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, tu nous as tellement aimés que tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Et des fois, Seigneur, on oublie, Seigneur, la valeur de ce que tu as fait, Seigneur. On est des fois tellement On peut tellement être ingrat par moment et juste à regarder à notre confort, Seigneur. Mais Jésus, on veut juste aller vers toi. On veut juste plus te ressembler, plus être comme toi, un peu mourir à nous-mêmes, Seigneur, pour aller vers les autres, Seigneur, pour partager ce que tu as fait. C'est notre témoignage. Tu as changé notre vie, Seigneur. Alors je te remets ce projet, Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre déjà, Seigneur, au travers de ça. On veut être une église selon ton cœur, Seigneur. Pas juste replier sur nous-mêmes, mais être une église selon ton cœur, Seigneur, qui aime, Seigneur, qui prend soin des autres, Seigneur. Donne-nous de ne pas être indifférents, de ne pas nous habituer, Seigneur. On ne veut pas non plus simplement cocher une case, Seigneur, mais on veut le faire de tout notre cœur, avec amour. On veut prendre du temps, fermer un peu la télé, fermer Occupation Double, là, puis se mettre à genoux et prier pour ses enfants, Seigneur. Tu veux transformer les vies, Seigneur. On veut mettre du temps à part, Seigneur. On veut s'investir dans la vie de ses enfants, Seigneur, de Charlevoix, Seigneur. Tu veux les appeler à toi, Seigneur. Ton plan pour eux, c'est la vie. La paix, la joie, la lumière, Seigneur. Donne-nous d'être cette église-là, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur. On veut t'aimer de plus en plus, te ressembler de plus en plus, Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble, puis juste chanter ce chant, célébrant ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait dans nos vies, mais ce que Dieu peut faire dans la vie de ses enfants, de ces gens qu'on veut rejoindre, dont on veut prendre soin?